Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on parle de la psychiatrie aujourd'hui, un mot peut résumer la situation. Ce mot, c'est paradoxe. Paradoxe ou fossé entre les besoins et la réalité. Paradoxe de constater, étude après étude, l'ampleur des dégâts provoqués par la crise sanitaire sur le plan de la santé mentale. Il y a quelques jours, la revue The Lancet évaluait cet impact de la pandémie. Résultat, une hausse de plus d'un quart des cas de dépression et d'anxiété à l'échelle planétaire. Besoin inédit en psychiatrie pour une discipline en crise depuis des années déjà en France. Alors c'est vrai, fin septembre, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont bien eu lieu, les autorités les présentant comme un moment historique du débat national. Mais pour quel résultat ? L'annonce du remboursement de consultations chez un psychologue, des moyens pour la recherche et la création de 800 postes dans des centres médico-psychologiques où aujourd'hui les délais d'attente dépassent les 18 mois. Trois promesses pour un secteur qui a perdu plus de 30 000 lits d'hospitalisation en moins de 30 ans, la psychiatrie qui manque de soignants, alors qu'aujourd'hui, la spécialité n'attire plus les étudiants, véritable crise des vocations. Alors à contre-courant, nous leur donnons la parole aujourd'hui pour comprendre pourquoi ont-ils choisi de devenir psychiatre dans un monde qui a plus que jamais besoin de santé mentale et de soins en santé mentale. Crise des vocations en psychiatrie en 2019, 17% des places d'internes étaient restées vacantes dans cette spécialité, 13% cette année. Dans certaines régions, c'est carrément la pénurie. Nous essaierons de comprendre pourquoi avec vous, professeur Florence Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Descartes, praticienne hospitalière dans le service de psychiatrie de l'hôpital Cochin. Assistance publique hôpitaux de Paris. Vous êtes également chercheur à l'INSERM et vous présidez l'Association internationale pour la santé mentale des femmes. Coup de projecteur sur un établissement menacé de fermer faute de moyens de personnel suffisant. Nous donnerons la parole au docteur Éric Salomé. Il est pédopsychiatre au sein de l'établissement public de santé mentale des Flandres à Bailleul, qui doit être transféré vers le site d'Armentières, toujours dans le nord du pays. Constat de crise, mais aussi l'avenir du secteur incarné par deux femmes qui sont engagées dans cette spécialité, à qui nous ouvrons le micro de Priorité Santé. Nathalie Coury, elle est étudiante en 7e année de médecine. Elle s'apprête à commencer son internat, ce sera le mois prochain. Et puis Dr Estelle Ngami, jeune psychiatre camerounaise, formée au Burkina Faso, actuellement en stage de perfectionnement en addiction en France. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sel, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Alors j'ai choisi de devenir psychiatre. L'idée de cette émission est partie d'un triple constat. Bien sûr, la crise de la psychiatrie qu'on évoque depuis des années. La très forte augmentation des troubles anxieux, dépressifs qui a accompagné et qui continue d'accompagner la crise sanitaire. Et puis après année, des étudiants de moins en moins nombreux à embrasser, à choisir votre spécialité, professeur Florence Thibault. Lorsque l'on parle de crise de vocation, c'est vraiment une réalité quand on regarde les chiffres.
Oui, très clairement, puisque comme vous le disiez, il y a 13% d'internes qui n'ont pas choisi de faire de la psychiatrie, et donc les postes sont restés vacants dans le choix de spécialité cette année. Et puis surtout, si on regarde l'hôpital public en général, il y a plus d'un tiers des postes actuellement qui ne sont pas pourvus.
Avec quelles conséquences quand on est justement en train de travailler en temps, on va se mettre du côté des médecins, il y a les patients bien sûr, mais en tant que médecin et qu'on n'a pas d'interne avec soi?
C'est compliqué parce que on a le sentiment que notre spécialité n'intéresse plus les jeunes et que donc ça pourrait ne plus être une spécialité d'avenir. Et puis notre métier, c'est quand même de former des jeunes, de susciter des vocations, de leur donner envie de prendre le relais quand on s'en ira. Et donc c'est vrai que c'est un peu triste en fin de carrière d'avoir à faire ce constat que nous ne pourrons peut-être pas passer le relais à une jeune génération.
Alors bien sûr, on va essayer de comprendre les raisons de ce désamour, si l'on peut dire, mais peut-être qu'on va d'abord s'intéresser aux autres. à ceux qui, malgré tout, malgré les embûches, choisissent d'aller vers la psychiatrie. Professeur Florence Thibault, vous en côtoyez quand même dans vos services. Qui sont aujourd'hui ces étudiantes, ces étudiants en médecine qui font le choix de la santé mentale ?
Alors, fort heureusement, il y a encore de nombreux étudiants qui viennent en médecine, mais il y aurait encore beaucoup de travail à faire pour augmenter leur motivation en déstigmatisant la psychiatrie, en modifiant les pratiques. Et ceux qui viennent actuellement, c'est une nouvelle génération, une génération qui apporte, je dirais, une bouffée d'air frais à la psychiatrie, puisqu'une enquête récente des jeunes psychiatres internes et étudiants en médecine montre qu'ils sont très pour une modification des pratiques, avec une réduction des pratiques d'isolement, de contention, une augmentation de aller vers, avec des équipes d'intervention précoce, d'intervention à domicile, d'intervention en milieu scolaire, de partenariat avec les médecins généralistes ou les autres spécialités, de renforcement des structures ambulatoires. Et tout ça sera probablement aidé par l'apport de la technicité, puisqu'on sait que maintenant on peut faire des consultations, on peut utiliser la réalité virtuelle, on peut utiliser des techniques de stimulation cérébrale totalement non-invasives qui peuvent être réalisées en ambulatoire et qui peuvent modifier à moyen terme profondément les pratiques en psychiatrie. Et puis, je l'espère, susciter des vocations, puisque ce sont des techniques innovantes et qui a beaucoup de choses à changer, donc dans l'approche et dans le traitement de la psychiatrie dans les proches années à venir.
Vous disiez modifier les pratiques, ça veut dire aussi se débarrasser de certains clichés autour de la psychiatrie. On avait consacré une émission à ce sujet. Pourquoi la psychiatrie peut-elle faire peur, professeur Florence Thibault ? Ça veut dire qu'il y a quand même encore un sacré nombre d'images négatives qui collent à cette spécialité.
Alors oui, déjà véhiculée par les médias, puisque une enquête réalisée par l'UNAFAM, donc l'association de proches et d'aidants de malades mentaux, trouve que 70% des proches considèrent que l'approche médiatique et l'approche par les films, les campagnes de communication, etc., est très stigmatisante pour leur famille.
Alors, ça a quelque chose de très punitif, hein.
On rêverait d'une série comme Urgence, qui a donné aux jeunes envie de refaire des urgences, de la réanimation. Il manque de communication, de campagne de communication grand public. Alors les Canadiens ont lancé des campagnes comme ça, les Anglais l'ont fait, les Néo-Zélandais, les Australiens avec un certain succès pour déstigmatiser justement la psychiatrie dans le grand public.
Et cette stigmatisation, elle atteint y compris les étudiants en médecine.
Oui, elle atteint les étudiants en médecine, elle atteint nos propres collègues, puisqu'on a beaucoup de mal à exister dans un hôpital général où nos collègues ont tendance à considérer que la psychiatrie n'est pas une vraie discipline médicale. Et donc, elle atteint tous les secteurs de la santé. Et déjà, ne serait-ce que donner envie aux étudiants en médecine en leur faisant des sessions de déstigmatisation dès la deuxième année de médecine avec l'aide d'associations de patients, ce serait déjà valoriser l'image de la psychiatrie. Et puis bien sûr, renforcer la formation, renforcer les stages, puisque très peu d'étudiants en médecine ont accès aux stages de psychiatrie. Ça a été peu à peu supprimé pour renforcer les stages dans les services d'urgence ou dans d'autres services de médecine.
En fait, mettre la main à la pâte et augmenter la visibilité, ça pourrait être tout à fait déterminant. Professeur Thibault, on va poursuivre cet échange dans quelques minutes, mais si vous le voulez bien, une illustration concrète maintenant. Quand on parle de crise, on parle liste d'attente pour être soigné, mais aussi fermeture de lit et parfois même programmation de fermeture d'établissement. Nous sommes en ligne avec le docteur Éric Salomé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre au sein de l'établissement public de santé mentale des Flandres à Bailleul, c'est dans le Nord. Et cette structure, eh bien, elle subit directement l'effet de la baisse du nombre d'internes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences de ce phénomène ?
La baisse du nombre d'internes qui ont choisi cet établissement, je dirais que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est peut-être pas le problème sur lequel il faut se focaliser, même si il fait partie de la complexité. En fait, le problème essentiel, qui est partagé, et aussi par d'autres spécialités, c'est la démographie médicale. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de médecins parce que il y a des décisions qui ont été prises par nos gouvernements successifs de diminuer le nombre de médecins formés. Et donc, progressivement, on a eu plus de médecins qui quittaient la profession en partant à la retraite, etc. Et moins de médecins formés, ce qui fait que je suis pas un homme de chiffres, mais comme je suis pédopsychiatre, vous l'avez dit, il y a un chiffre que je connais, c'est celui du nombre de pédopsychiatres en France. Mmh. Il y a 10 ans, il y avait plus de 1000, je crois que c'était 1100 et quelques pédopsychiatres en France. Cette année, en 2021, on est passé en dessous de la barre des 600.
Alors qu'on sait que la demande est absolument impressionnante, moins de soignants, qu'est-ce que ça veut dire pour la prise en charge des patients? Et justement, vous parliez de territoire de santé, vous êtes dans le Nord, on parle très souvent dans priorité santé d'un autre territoire, c'est la Seine-Saint-Denis qui là aussi est vraiment sous-dotée. Pourtant, on va dire, on a l'impression que plus il y a de besoins, moins il y a de moyens.
Oui, alors, le problème a un peu changé, c'est-à-dire que pendant des années, l'objectif était d'augmenter les moyens mis à disposition des différents dispositifs pour les faire fonctionner par rapport aux besoins. Et donc, l'enjeu était plutôt de réussir à faire financer un projet, de pouvoir ouvrir un poste de médecin, mais pas seulement, hein. Le médecin n'est pas tout seul, surtout en psychiatrie, la notion d'équipe et d'autres professions avec le médecin est importante. Ce qu'on constate maintenant depuis quelques années, c'est plutôt les postes existent. On n'en crée même pas énormément de nouveaux parce que de toute façon, on a des difficultés à trouver des professionnels pour venir prendre ces postes.
Justement, ce déficit de bras, on va dire, il y a un effet ricochet ou effet boule de neige. Déficit de bras, moins d'internes, ça démotive les médecins. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, votre centre de soins, votre hôpital psychiatrique, il se retrouve menacé?
En psychiatrie, l'hôpital est une chose, mais je dirais que c'est l'histoire, donc c'est l'ancien asile, voilà, qui a une valeur importante historique. Mais ce qui est menacé là, en l'occurrence, c'est la localisation de ces lits d'hospitalisation. Et là où il y avait 6 unités à Bayeul, à une époque d'ailleurs au 19e siècle, je pense qu'on même un peu à début 20e, on avait 1000 patients à cet endroit. Il n'y a plus que 76 lits de psychiatrie, je vais dire, active. Et le souci, c'est essentiellement d'ailleurs la permanence des soins. C'est-à-dire que comment assurer une permanence des soins 24 heures sur 24, ce qui est une nécessité à l'hôpital public, puisque vous avez peu de secteurs, vous avez peu de médecins, et comme on a cette problématique d'avoir de moins en moins de médecins, eh bien on fait tourner des lignes de garde avec peu de médecins. Donc les médecins se retrouvent avec une charge de travail, vous voyez, qui est importante.
On a ce constat, on a ces problèmes que vous venez de pointer. Maintenant, si on essaye de regarder demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Vous avez parlé au début de l'entretien de ce qu'on appelle le numerus clausus, pas suffisamment de médecins qui sortent des écoles, qui viennent vous apporter justement des ressources. Justement, il faut que le métier rajeunisse, qu'il y ait des bras. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore?
Je pense que oui, c'est un des aspects. Hein. Il y a pas une solution unique, une baguette magique. En revanche, il y a un lot de solutions à mettre en œuvre. Celle-là en fait partie, c'est-à-dire la question de la formation. Mais ça, il faut minimum 6, 10, 11 ans pour former un médecin. Donc on a le temps de voir venir. Mais cette question de l'attractivité, de peut-être de la représentation du métier de psychiatre auprès des jeunes médecins aussi, parce que non seulement il y a le nombre de médecins formés, mais après il y a le nombre de spécialistes. Mmh. Et la spécialité de psychiatrie est des dernières choisies. Et parfois, même le nombre de postes d'internes n'est pas pris en totalité.
Vous, docteur Éric Salomé, quand vous étiez jeune étudiant, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir psychiatre?
Mais en fait, ce sont des cours qui étaient optionnels en deuxième année, qui étaient intitulés psychologie médicale, assumés par un professeur de psychiatrie du CHU de Lille, qui a commencé à m'intéresser à cette dimension, je dirais, relationnelle de la médecine. J'ai donc ensuite fait un stage en tant qu'externe, hein, donc étudiant dans les premières années en service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et finalement j'ai été bien accueilli, bien accompagné par les différents professionnels. Médecins, mais également, il y avait psychomotriciens, infirmiers, orthophonistes. De ce fait-là, j'allais dire, on m'a donné le goût de ce métier. Là, par exemple, j'étais au congrès de la Société d'information psychiatrique il y a une semaine, et c'était donc sont des jeunes internes qui font un peu les petites mains du congrès. Et je discutais avec une interne qui m'expliquait avoir choisi la pédopsie. Ben voilà, pour cette question de coup de cœur. Mais le coup de cœur, on ne peut l'avoir que si on a rencontré des professionnels, des personnes, des organisations, et si les organisations sont pas trop en souffrance pour pouvoir quand même être attractive.
Un compagnonnage positif. On vous remercie beaucoup, docteur Salomé. Vous étiez en ligne du nord de la France, de la ville de Bailleul. Merci beaucoup. Professeur Florence Thibault, comment est-ce que vous réagissez après ce témoignage de votre confrère pédopsychiatre, le docteur Éric Salomé? On parle du coup de cœur pour le métier quand on est jeune, et puis aussi des difficultés de terrain aujourd'hui pour lui et pour son équipe.
Alors, je crois que un mot important qu'il a utilisé, c'est le terme de compagnonnage. Et je crois qu'effectivement, la motivation pour faire de la psychiatrie, c'est souvent après une rencontre importante. Alors, ça peut être lors d'un stage, ça peut être lors d'un cours, ça peut être lors d'une sensibilisation d'étudiants, ça peut être lors d'une émission de radiologie, de radio, comme vous êtes en train de faire en ce moment. C'est souvent déterminant pour un jeune, pour le choix de sa spécialité ultérieure.
Et on va poser la question tout de suite à vous, hein, en ligne. Nathalie Coury, bonjour.
Bonjour.
Alors Nathalie Coury, si tout va bien, on vous appellera docteur Coury dans combien de temps, dans combien d'années ?
Pas tout de suite. En fait, docteur, pour être docteur, il faut avoir passé sa thèse et avoir terminé l'internat de psychiatrie. Mmh. Donc l'internat, là, c'est minimum 4 ans. Et justement, ils sont en train de voir pour ajouter une année en plus. Et ça, plus la thèse à faire.
Donc, on va dire dans 7 bonnes années.
J'espère un peu moins.
On parlait de rencontres déterminantes. Il y en a une pour vous, Nathalie Coury. Quelqu'un, des mots, des phrases, un accompagnement qui vous a dit « c'est ça que j'ai envie de faire
». Moi aussi, comme quelqu'un en a parlé en deuxième année, j'ai eu les cours sur la psychologie que j'avais vraiment bien aimé. Et aussi des cours d'addictologie avec un professeur qui était aussi médecin en addictologie que j'avais vraiment bien aimé. Et j'avais fait un stage aussi en service de psychiatrie à l'hôpital il y a 2 ans, et j'avais vraiment découvert un monde différent par rapport aux autres spécialités qui m'avait bien plu, parce que on était beaucoup plus en contact avec les patients et dans la relation et à s'intéresser vraiment à la vie du patient en dehors de ses maladies par rapport aux autres spécialités. C'est ça que j'ai bien aimé.
L'importance du lien, ce choix de devenir psychiatre, est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu à contre-courant?
Peut-être un peu, oui, c'est vrai que c'est quand même une spécialité assez différente des autres et assez, dans un monde un peu différent et qui peut faire peur. Et c'est vrai que, comme ça a été dit, ça fait peur. Il y a beaucoup d'a priori, même par les autres médecins et en particulier des générations au-dessus. Parce que c'est vrai que la psychiatrie est une spécialité qui a beaucoup changé, qui change beaucoup, même ces dernières années, avec avant les asiles psychiatriques, etc. Et
même au niveau des mots, au niveau de la façon de désigner les malades, hein, on ne parle plus de folie aujourd'hui, on parle des maladies précisément les unes après les autres. Quand on dit à sa famille, on imagine la famille qui est fière qu'on ait réussi à déjà passer la première année de médecine, parce que c'est véritablement une épreuve aujourd'hui, quand on dit à sa famille qu'on va devenir psychiatre, la réaction c'est quoi ?
La réaction de la famille, elle était plutôt positive, parce que un psychiatre, c'est un médecin, et voilà. Donc, mais c'est vrai que l'entourage un peu plus éloigné se pose toujours la question de « mais pourquoi tu as choisi cette spécialité ?» Et voilà, ça renvoie aussi quelque chose de soi-même. Est-ce que toi aussi, tu as un problème psychiatrique, c'est pour ça que tu as choisi la psychiatrie? Ils sont fous aussi, les psychiatres, et tu vas travailler avec des fous, en gros. C'est le mot de la folie qui ressort tout de suite. Alors que c'est assez réducteur et assez inexact. Donc c'est vrai que le mot de folie n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais surtout c'est pas, même les délires, etc., c'est quand même une partie de la psychiatrie. Il y a beaucoup de choses comme le suicide, la dépression et l'addictologie qui touchent en fait vraiment beaucoup beaucoup de monde, la population générale, et c'est pas ça que les gens auxquels les gens pensent.
Professeur Thibault, la psychiatrie, On l'a dit, beaucoup de possibilités. On parlait bien sûr des innovations en termes d'approche, en termes de technique. Et puis, beaucoup, on va dire, et ça, c'est pas forcément connu, de surspécialisation. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur des points très précis, avancer et avoir une véritable progression, justement, dans son approche de la maladie mentale.
Tout à fait. On peut avoir une approche par des techniques, par exemple spécialisée dans les techniques de stimulation cérébrale non invasive. On peut avoir une approche par pathologie, être par exemple spécialiste du trouble bipolaire et travailler dans un centre expert ou spécialiste de la schizophrénie. On peut être spécialiste d'une technique. On peut par exemple être surformé ou en tout cas avoir une surspécialité en thérapie cognitive et comportementale pour avoir une approche un peu différente. On peut aussi avoir une surspécialisation en psychiatrie légale pour pouvoir travailler en milieu carcéral ou en addictologie ou en psychiatrie du sujet âgé ou encore en psychiatrie périnatale ou en pédopsychiatrie, puisque toutes ces spécialisations donc vont voir le jour dans les années à venir. La pédopsie, l'addictologie existaient déjà, mais la psychiatrie périnatale et la psychiatrie légale sont des spécialités qui sont amenées à être reconnues et à avoir une place spécifique dans les années à venir.
Professeur Thibault, Nathalie Coury, on va se retrouver dans quelques minutes pour poursuivre cet échange, juste après ce titre de Kirby, Super Power. And the master was the slave, the killer was the victim, and man was God. My nose wide as the Red Sea. Lips full, fillers don't feel me. Soon as my cousin killers on trial. Whoa. Family gon' pull up sitting courtside. Gossip, they say we singing la la la. Don't want no vultures on our side. Yeah, yeah. Looking black as the Messiah. Yeah, yeah. Aye, aye, time we got superpowers.
They say, how we get so fly without the wings? Baby, childs can see the light in darker things. Wait, now they see our magic. Proudly we imagine days when they can't frown upon our fabric. Bob and weave, been dodging thieves and stolen coaches. I believe in poaching vultures. I believe in open ocean trips. No ship, I'll backstroke from one coast to coast like Aquaman. Got mind control over the lava land. That's why my pen leaves fire. I retire when my father can. Look up in the sky and see me clouds sitting. It's a bird, it's a plane, no, this power living. I kicked the rainbow yesterday, it let out sour Skittles. I bet Trayvon up in heaven like these my kind of vittles. Armadillo, armor thick, got bulletproof karma, cause I'm innocent of all that they accused me of. Superheroes and sheroes with POs accusing us of moving kilos, still always moving love.
We got superpowers.
Priorité santé sur RFI, j'ai choisi de devenir psychiatre, choisir cette spécialité de la santé mentale, un secteur en crise. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Florence Thibault, praticienne hospitalière dans le service de psychiatrie de l'hôpital Cochin à Paris. Avec nous, une future psychiatre, Nathalie Coury, puisque dans un mois, hein, c'est ça, vous allez entamer votre internat en psychiatrie. Vous allez commencer où ?
C'est ça, tout à fait, en début novembre, et je vais commencer en pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré.
Alors, la pédopsychiatrie, les enfants, on sait que les besoins sont énormes. Tout à l'heure, on a eu un de vos confrères dans cette discipline particulière. Nathalie Coury, vous disiez tout à l'heure, le choix plutôt bien accueilli, au moins par vos parents. Maintenant, le regard de vos pères, les autres étudiants à la fac ou même à l'hôpital, hein, des externes, qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous avez dit « moi, Nathalie, je serai demain psychiatre » ?
Ça dépend, parce que quand même... On a tous étudié la psychiatrie, parce que ça fait partie de toutes les matières qu'on doit étudier. Donc quand même, les autres collègues, ils connaissent la spécialité. Donc en général, ils savent que c'est une bonne spécialité, que c'est vraiment utile et que voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même une spécialité différente des autres et que c'est vrai que, comme ça a été dit, c'est pas parmi les premières spécialités qui sont choisies après le concours de l'ECN, quoi.
Est-ce qu'il y a, c'est le concours de classement où on choisit en fait au bout de 6 ans, c'est ça, où on va se destiner?
C'est ça. Donc en fait, il y a la première année qu'on fait en 1 ou 2 ans, mais maintenant c'est 1 an. Puis après, il y a les 2 années, à Paris en tout cas, il y a 2 années où on a juste des cours et quelques stages. Et puis après ça, il y a 3 années qu'on appelle l'externat, pendant lesquelles on fait stage tous les matins, cours les après-midi et on prépare le concours des ECN. Ça veut dire épreuve classante nationale. Et ça, donc c'est à la fin de la 6e année. Et donc c'est ce que j'ai fait c'était en juin. Et après, il y a les choix de spécialité, c'est là, en septembre, c'était en septembre, et la rentrée en novembre.
Est-ce que vous avez eu des collègues, des confrères, je ne sais pas comment on dit pour ses compagnons d'études, qui ont dit, pour moi, la psychiatrie, c'est carrément hors sujet, pas question de travailler dans ce milieu-là?
Oui, c'est sûr, mais après, c'est comme toutes les spécialités, chacun a des spécialités qu'il ne voudrait pas faire, et c'est sûr que la psychiatrie, comme c'est très particulier, et que c'est différent quand même de la médecine du corps, vu que c'est la médecine de l'esprit, c'est quand même une spécialité assez différente des autres. Et donc, comme on doit abandonner, en choisissant une spécialité, on doit abandonner un peu toutes les autres, donc c'est sûr qu'il faut plus d'abandon, enfin, je sais pas comment expliquer, mais...
Renoncer à davantage de pans de la médecine.
Qu'on a appris, en tout cas, pendant les 6 dernières années. Donc, voilà.
Même si on les oublie carrément, peut-être jamais. Cette expérience de la santé mentale, Nathalie Coury, est-ce que cela se ressent en dehors de vos heures de travail, dans la vie, quand vous avez quitté la blouse blanche? Est-ce que ça change le regard de la citoyenne, de la femme?
Par rapport à quoi, pardon?
Par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à ses proches, par rapport au monde dans lequel on vit, est-ce que ça change votre regard?
Alors moi, j'ai toujours pas commencé la spécialité, mais c'est sûr que, en fait, on voit bien que tout le monde est touché par la santé mentale. C'est vraiment un sujet très important qui touche tout le monde, même si c'est un peu tabou. Nous, on a eu une pré-rentrée là de tous les internes de Paris, et on nous a dit, de but en blanc, 7 suicides d'internes par an. Un quart d'entre vous seront déprimés, en dépression. Donc voilà, ça c'est juste les internes de médecine. Et tout le monde connaît dans son école, mes amis qui sont pas en médecine, une personne qui s'est suicidée, des gens qui sont en dépression. Enfin voilà, donc c'est vraiment un sujet très qui touche tout le monde. Donc il faut vraiment s'y intéresser et ne pas en avoir peur, à mon avis.
Merci beaucoup Nathalie Coury. Professeur Florence Thibault, on vous retrouve. On a entendu Nathalie qui va aller, pour commencer cet internat, en pédopsychiatrie. Si on s'arrête sur cette spécialité, on va dire tout le secteur est en crise, mais la pédopsychiatrie, c'est peut-être encore pire que les autres. Est-ce qu'on peut justement dire qu'il y a certaines sous-spécialités qu'il faudrait encore plus aider que les autres?
Alors, peut-être sur spécialité plutôt que sous spécialité, qui peut donner un risque de connotation négative. Oui, effectivement, la pédopsychiatrie, il y a peut-être plus une crise en termes de nombre de postes qu'en termes de vocation, parce que je crois que les jeunes psychiatres ont plus envie qu'avant de faire de la pédopsychiatrie. Et puis, il faudrait surtout développer la psychiatrie du sujet âgé, la psychiatrie en milieu carcéral, ou tout l'accompagnement des patients qui sont en difficulté avec la justice, la psychiatrie pour les migrants, la psychiatrie pour la périnatalité, où il y a très peu de structures en France qui s'occupent de femmes avec des difficultés psychiatriques qui viennent d'accoucher. Donc il y a un certain nombre de surspécialités qui sont effectivement en difficulté.
Vous, à titre personnel, professeur Florence Thibault, vous avez une spécialité particulière ?
Alors j'ai longtemps travaillé au contact de schizophrènes, et puis du fait de ma double formation d'endocrinologue et de psychiatre, j'ai aussi travaillé avec des patients qui étaient des violeurs en série, des pédophiles depuis une 30aine d'années, et donc je continue à prendre en charge effectivement des patients qui sortent de prison pour des délits sexuels.
Nathalie Coury évoquait tout à l'heure bien sûr le cas des suicides. Chacun, chacune autour de soi a dans son parcours de vie pu connaître quelqu'un directement touché. Est-ce que pour vous aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut particulièrement communiquer et faire comprendre qu'il y a des soins, il y a des prises en charge, donc aussi sortir d'une image un petit peu fataliste de dire « il n'y a rien à faire ».
Oui, très, très clairement. Alors, il y a eu un numéro spécial qui a été mis en place pour les personnes qui ont des idées suicidaires. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés pour essayer de réduire le risque suicidaire, puisque, comme je disais tout à l'heure, la France est un des premiers pays européens en termes de suicide, en particulier chez les moins de 35 ans.
Et on va faire une autre rencontre à présent. Nous sommes en ligne avec le docteur Estelle Ngami. Estelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui en France à l'occasion d'un stage en addictologie, docteur Ngami. Cela se passe où ?
Un stage de perfectionnement.
Et ça se passe où comme établissement ?
Bon, je n'ai pas encore commencé. Normalement, je vais débuter d'ici le mois de novembre. Et ça sera à l'hôpital Sainte-Anne.
À l'hôpital Sainte-Anne, donc à Paris, un grand hôpital psychiatrique de la capitale. Vous êtes camerounaise de nationalité, formée au Burkina Faso. Alors, depuis le début de cette émission, on parle de la crise de la psychiatrie dans un pays comme la France. Quel terme vous employez-vous quand vous parlez de la situation de la santé mentale et de la psychiatrie en Afrique subsaharienne? Vous décririez, pour les auditeurs, ils connaissent les réalités, hein, bien sûr, mais pour des gens de l'extérieur qui ne savent pas comment on traite la maladie mentale en Afrique, vous décririez ça comment?
Bon, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est la même chose, mais beaucoup plus en Afrique, c'est la folie qui est mise au devant quand on parle de la psychiatrie, en fait.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Afrique, il y a une dimension encore plus taboue ou c'est juste une façon différente de voir les choses?
Je dirais oui, il y a vraiment un tabou autour de la psychiatrie. Il y a beaucoup de fausses croyances et de pensées négatives liées à cette spécialisation.
Par exemple, pour tout ce qui est mystique, c'est-à-dire d'assimiler certaines conduites un petit peu qui sortent de la normale à des pratiques, on va dire, de malédiction, à des pratiques d'esprit. Et il faut prendre en compte, quand on est soignant aussi, hein, il faut en prendre en compte toute cette réalité.
Exactement, parce que beaucoup vont penser d'abord, premièrement, à quelque chose de mystique, comme vous l'avez dit, et auront recours beaucoup plus à des traitements traditionnels qui vont avoir pour conséquence un retard diagnostique, en fait.
Alors, vous disiez tout à l'heure, docteur Ngami, qu'on pouvait comparer la situation en France et en Afrique subsaharienne. Je mettrais juste une petite réserve, certainement, sur le nombre de spécialistes, parce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un énorme besoin en psychiatre dans, on va dire, la quasi-totalité des pays d'Afrique.
Exactement. Exactement. Mais je dirais que de nos jours, de plus en plus, les gens s'orientent déjà vers cette spécialité. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Parce que c'est la stigmatisation autour de cette spécialisation a pour conséquence, les gens ne veulent pas s'orienter en fait vers cette spécialisation parce qu'ils ont peur et cela a un grand impact.
Un grand impact. On va s'intéresser à votre choix personnel, votre parcours de médecin, docteur Estelle Ngami, la santé mentale. Comment est-ce que vous avez décidé de devenir psychiatre?
Moi, mon choix de faire la psychiatrie est venu d'une expérience traumatisante que j'ai eue durant mon internat lorsque j'avais été affectée au service de réanimation pendant 3 mois.
Oui.
Oui, j'ai été confrontée à la problématique de la mort de manière permanente dans ce service. Et cela a été vraiment difficile pour moi.
Vous avez dit la réa, c'est pas pour moi.
Oui, c'est ça en fait. J'étais plutôt pressée de finir mon stage dans ce service. Et après le service de réanimation, je devais faire également 3 mois au service de psychiatrie. Et je vous avoue qu'au départ, cela ne m'enchantait pas du tout, d'autant plus que cela était la première fois pour moi de faire ce service. Tout comme bon nombre de personnes, je m'étais faite beaucoup d'idées négatives autour des personnes souffrant de maladies mentales. Notamment dans mon cas, ce qui me faisait tellement peur, c'était la violence et l'agressivité. Mais toutes ces idées sont naturellement vite passées. Quand j'ai côtoyé ces personnes Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout cela.
Ce que vous êtes en train de nous expliquer, docteur Gaby, c'est que vous croyiez au début, en arrivant, que vous alliez travailler avec des fous, et finalement, vous travaillez avec des hommes et avec des femmes, tout simplement.
Exactement, exactement. Et ça a été vraiment quelque chose de positif pour moi, surtout au niveau de la prise en charge, parce que quand vous voyez des gens arriver dans un état vraiment d'agitation et complètement délirant, et après quelques semaines de traitement, vous arrivez à causer avec ces personnes et vous arrivez à vous comprendre, en fait. Et je me suis sentie vraiment utile. J'ai senti que c'était ça, en fait, qu'il fallait que je fasse.
Ce sentiment d'utilité que vous n'aviez pas ressenti lorsque vous étiez en soins intensifs. Professeur, on va vous retrouver, hein, docteur Ngami, restez avec nous. Professeur Thibault, comprendre la maladie mentale, c'est vrai que être dans le grand bain, ça permet de changer certains préjugés. On l'entend vraiment avec ce témoignage sur des situations qui sont souvent mal comprises, mal interprétées. Et j'ai envie de dire, pourtant, ça se passe à côté de chez nous, mais on ne les voit pas.
Oui, exactement. Alors, certaines associations, dont l'UNAFAM, préconisent de faire des formations au premier secours en santé mentale en population générale, comme on fait, par exemple, des formations à la prise en charge des patients qui ont un malaise dans la rue, de façon à déstigmatiser et à pouvoir expliquer aux gens que la santé mentale, c'est aussi l'anxiété, la dépression, et que c'est pas seulement l'image négative qu'ont pu donner les films pendant de nombreuses années de patients, comme expliquait notre jeune collègue africaine, de patients complètement délirants qui sont amenés dans les services de psychiatrie très tardivement parce qu'en fait ça n'a pas été dépisté plus tôt et ça n'a pas été pris en charge plus tôt pour des raisons liées à la stigmatisation.
Alors ce choix de la psychiatrie, docteur Estelle Ngami, comment réagit votre entourage lorsque vous leur avez annoncé ?
Premier temps, une incompréhension totale, parce que on ne comprenait pas comment j'ai fait pour choisir la psychiatrie et pas, par exemple, la pédiatrie, la gynécologie. Et bon, c'est passé l'incompréhension, maintenant c'était l'inquiétude, parce que beaucoup, bon nombre me demandent si j'ai pas peur de, qu'en travaillant avec ces patients, à un moment, je deviendrai également aussi comme eux.
Ouais, donc on revient vers les préjugés. Hein.
Exactement.
Et ce
exactement.
Regard de votre famille, c'était très important, hein, docteur Ngami, parce que en fait, c'est la famille qui payait les études et ça pouvait mettre en péril financièrement tous vos projets.
Exactement, mais bien évidemment, ils m'ont compris, hein, ils m'ont compris et m'ont soutenu jusqu'à présent totalement.
Alors, aujourd'hui, ils vous soutiennent. Aujourd'hui, vous êtes bien déterminée à continuer, on l'a bien compris. Est-ce que vous voulez vous spécialiser dans une branche particulière de la psychiatrie ?
Je pense que oui. C'est pour ça, en fait, que je veux commencer la formation en addictologie, la capacité d'addictologie clinique. Oui, c'est beaucoup plus ce volet.
Et c'est vrai qu'il y a des besoins très importants parce que c'est vrai que quand on parle avec les auditeurs de l'émission, beaucoup ne savent même pas quand ils ont un problème de dépendance, que ce soit à l'alcool, à la marijuana ou au tabac, qu'ils peuvent aller voir un médecin qui peut les aider. Hein. Il y a vraiment un gros travail de sensibilisation à faire sur ce plan.
C'est ça en fait. Et de manière générale, pour la psychiatrie, c'est ça. C'est la promotion en fait de la santé mentale. Je pense que c'est sur ça qu'on devrait s'axer beaucoup plus pour que la population sache qu'elle peut s'orienter devant tel problème, voilà, vers un psychiatre, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance et en général, c'est cette ignorance-là qui crée vraiment des retards et des complications dans la prise en charge, en fait.
On parle beaucoup du lien hein, quand on a envie de devenir psychiatre, docteur Ngami. Comment décrire ce lien qui vous unit à vos patients ? On parle d'une sorte de courant qui passe, une compréhension, une empathie, un sentiment d'utilité. Vous ressentez quoi quand vous échangez avec eux ?
C'est forcément de l'empathie d'abord, parce que ce sont des patients qui sont pas pour, qui sont rejetés en fait. Ce sont des personnes qui sont rejetées par la société. Et déjà, ce simple fait vraiment ne peut que me faire être vraiment empathique envers eux.
Vous avez vraiment le sentiment de les soulager ?
Oui, oui. Parce qu'ils ont besoin déjà, premièrement, d'une écoute. Et quand ils sont face à quelqu'un qui sont là pour eux, je pense que ça joue déjà, premièrement, sur leur maladie, en fait.
Ben, on espère qu'on va faire naître des vocations. En tout cas, quand on vous écoute, on a envie, hein. On a envie d'aider les autres. Merci beaucoup, docteur Estelle Gamy. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette émission, professeur Florence Thibault. Convaincre que, justement, réparer des gens qui vont mal dans leur tête, on va dire que c'est absolument extraordinaire.
Oui, et puis, comme le disait donc notre collègue, il y a une caractéristique qui est quand même assez spécifique à la psychiatrie, c'est qu'une petite partie de nos patients, du fait seulement de la maladie mentale, n'ont pas la notion qu'ils sont malades. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas spontanément consulter parce qu'ils ne se rendent pas compte à cause des troubles liés à la maladie mentale qu'ils sont en train de développer une maladie mentale. D'où l'importance de l'entourage, des proches, des amis qui peuvent les aider à venir consulter.
On parle depuis le début de l'émission, on arrive au terme de notre échange, professeur Thibault, de cette forme de désaffection et du paradoxe, je le disais en ouverture, au moment où, étude après étude, on réalise que les besoins en santé mentale n'ont jamais été aussi importants.
Oui, très clairement. Ils ont été encore plus mis en lumière avec le Covid, hein, en particulier en termes de risques suicidaires, d'anxiété, de dépression, avec des files actives qui sont de plus en plus, des files d'attente qui sont de plus en plus longues dans les consultations de psychiatrie, en particulier publiques.
Et des fois, vous parliez de l'entourage tout à l'heure. Quand on est dans l'entourage, on a un proche, un ado, un jeune qui n'en peut plus, qu'on appelle les services psy, on dit « revenez plus tard, il n'y a pas de place ». Même quand on va à limite aux urgences et on vous renvoie chez vous, alors qu'on sent que ce proche est en danger, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est compliqué. Alors, si on a un médecin généraliste compréhensif, on peut déjà avoir une première approche par le médecin généraliste qui va pouvoir mettre en place les mesures de premier secours, je dirais, en santé mentale. Ou ça peut être, si c'est à l'université, un médecin scolaire, ou si c'est dans une école, une infirmière ou un médecin scolaire qui vont pouvoir donc mettre en place les premiers secours. Et puis ensuite, ben, ça peut être l'appel à une association de patients qui va permettre de donner des conseils dans un premier temps.
Il y a des numéros d'écoute, effectivement.
Voilà.
Où on peut justement dialoguer. C'est une spécialité où le dépistage précoce est essentiel pour alléger les prises en charge. Et c'est donc vraiment indispensable de faire naître des nouvelles vocations. Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qui peut changer les choses ?
Il faut absolument faire de la santé mentale une grande cause nationale.
Plus de moyens, plus de visibilité, c'est ça aussi une cause nationale.
Et une déstigmatisation importante à tous les niveaux, dans la population générale, chez les étudiants en médecine, chez nos collègues médecins. Et puis enfin, accroître le financement de la recherche, puisque 4% du budget de la recherche est consacré à la psychiatrie en France, contre 16% aux États-Unis.
On peut faire beaucoup mieux. Merci beaucoup, professeur Thibault. Je rappelle que vous êtes praticienne hospitalière dans le service de psychiatrie de l'hôpital Cochin, présidente de l'Association internationale pour la santé mentale des femmes. On parle santé, on parle souffle aussi dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, et c'est une question que se pose un certain nombre de nos auditeurs. Quel sport est-ce qu'on peut pratiquer lorsque l'on souffre d'asthme à l'effort parce qu'il y a asthme au pluriel, asthme et asthme. Alors, dans quel cas cette maladie ou cette réaction se déclenche à l'effort ?
Alors, l'asthme d'effort, on l'appelle aussi l'asthme induit par l'exercice. Alors, ça se caractérise par une crise d'asthme, vraiment, à proprement parler, et qui est provoquée par la pratique du sport ou d'une activité physique. Et ça peut aller jusqu'à 5 à 10 minutes après l'arrêt de l'effort, pendant la période de récupération. Alors, on sait que cet asthme d'effort, il est favorisé par un effort très long ou très intense et brutal. Si on est dans un air froid et sec, sec. La pollution de l'air également et la pollution locale, bien sûr, va irriter les bronches et va favoriser la réaction asthmatique. La présence de pollen ou une importante inflammation des bronches liée à une infection, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent favoriser la crise d'asthme à l'effort. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette crise d'asthme? Parce que généralement, quand on est au repos, on va respirer quelques litres d'air au maximum, une dizaine de litres d'air au repos, entre 5 et 7 litres. Et on peut multiplier par 10, voire par 15, le volume d'air que l'on ventile lorsque l'on fait un effort. Et évidemment, on va filtrer toute l'air pollué dans les poumons. Et puis en plus, c'est une air qui ne passe pas par le nez, hein, puisque le nez va filtrer un tout petit peu l'air et puis va permettre également de le réchauffer. C'est de l'air qui passe par la bouche, va directement dans les poumons. Et ça peut irriter les bronches et favoriser justement cette crise d'asthme.
Alors, quels signes, docteur Sen, quels signes doivent alerter? Comment savoir que l'on souffre d'asthme à l'exercice?
Les symptômes de l'asthme à l'effort sont multiples. Ça peut être une toux, une respiration sifflante, une oppression comme ça thoracique ou avoir le souffle court. Alors si on a ces signes-là uniquement quand on fait de l'exercice, là on peut soupçonner un asthme d'effort. Et pour ça, pour pouvoir faire le diagnostic, il faudra aller voir son médecin évidemment, et il fera un test de provocation en fait, c'est assez simple, il vous fera pédaler ou courir en laboratoire, il va faire un test de la respiration, on parle d'une spirométrie, une épreuve fonctionnelle respiratoire, il va voir avant et puis après l'effort, normalement on va voir les paramètres de ce souffle, de ce test fonctionnel respiratoire, diminuer après l'exercice, qui diagnostiquera l'asthme induit par l'exercice.
Est-ce qu'il y a des sports en particulier qu'on peut conseiller pour éviter qu'adviennent ces crises?
Il faut dire que la plupart des sports sont autorisés. À part la plongée sous-marine, on peut faire à peu près tous les sports. Alors, il faudra noter quand même que les sports en salle peuvent occasionner une crise d'asthme, parce que dans les salles, évidemment, il peut y avoir de la pollution, des poussières, et tout ça peut favoriser la crise d'asthme. On fera attention également quand on est dans les manèges lors de l'équitation, par exemple, ou proche d'animaux, là aussi, il y a des allergènes qui peuvent favoriser ces crises d'asthme. Donc, il faut favoriser plutôt un sport où on n'a pas, justement, ces facteurs favorisant la crise d'asthme. Ça, c'est un élément qui est important. Alors, quelles sont les précautions préalables qui permettent d'éviter les crises? Première chose, c'est quand on sait que les indices de pollution ou de pollen sont très élevés, il faut éviter.
C'est vrai que dans certaines villes, il y a des indicateurs, il y a des annonces publiques qui disent « attention, aujourd'hui, restez plutôt à l'intérieur ». C'est le cas par exemple à Paris, mais pas partout dans le monde.
Pas partout dans le monde, absolument. La température, lorsque la température est trop chaude ou trop froide, si vous avez récemment eu une infection virale respiratoire, un rhume, tout ça, il faut essayer de limiter, bien sûr, et de modifier ses activités. En tout état de cause, il faudra toujours s'assurer de bien s'échauffer et de rester calme de manière appropriée, parce qu'on sait que un manque d'échauffement ou justement un stress ou une anxiété favorise la crise d'asthme. Il faudra vérifier que votre asthme de base est bien maîtrisé avant de faire l'activité, parce que sinon l'activité risque d'aggraver bien sûr les choses. Et puis, si les symptômes apparaissent, faut arrêter l'exercice. On n'insiste pas pour éviter que la crise s'accentue. Toujours prendre ses médicaments. Vous savez, c'est les procondilatateurs, les sprays. Il y a des marques connues, mais qu'on utilise. Ça, il faut l'avoir avec soi. Et quelquefois, si on a un asthme induit par l'exercice, souvent le médecin prescrira de 15 à 20 minutes avant de faire l'exercice de prendre justement ce spray. Il ne faudra pas hésiter à le faire.
On prend des bouffées avec la petite pompe en plastique.
Exactement. On prend une de bouffées et puis il faudra courir, en tout cas faire ses exercices avec justement ce spray à proximité, parce que sinon, si jamais la crise survient, l'idée c'est justement de pouvoir l'utiliser relativement rapidement. Et puis, il faudra bien évidemment être attentif jusqu'à 30 minutes après la fin de l'exercice, on l'a vu tout à l'heure. L'asthme peut se déclencher dans la période de récupération, donc il faut être très attentif à tout cela. Alors avec tous ces conseils, normalement, nos auditeurs n'auront plus de raison de siffler.
De siffler, mais bien de bien souffler. Merci à vous, docteur Jean-Marc Sen, pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes médecin du sport. Et demain, dans Priorité Santé, on parlera de la dépendance à l'alcool. Quel rôle pour le médecin généraliste? On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.